RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Le Super Football Show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Vive, ravi d'être avec vous pour l'after. On est ensemble jusqu'à minuit avec Daniel Riolo ce soir. Salut Daniel.
Salut les amis.
T'as fini ta BD?
Tu criais comme ça en 2017?
Ouais,
mais c'est 2018 qui.
Attends, je suis tout décoiffé.
Non, mais là, je viens d'enchaîner 4
qui te conduit à cette enflammade?
Non, je sais pas si c'est l'enflammade. C'est les vacances pour moi ce soir.
Ah oui.
Je sais pas si elle va être très bonne d'ailleurs. Jonathan Macardy est avec nous également. Très joli col roulé. Pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir BFM Sport.
Oui, tu devrais t'en inspirer parfois.
Moi j'en mets de temps en temps, ouais. Mais après c'est chiant, j'ai toujours chaud moi.
Attention, col roulé, il faut deux choses. Avoir un beau col roulé et être un peu costaud, sinon ça marche pas. Donc un peu de sport avant, ça peut être pas mal.
Je sais que t'as une vraie obsession avec ça, avec le culte du corps, tout ça. Moi j'assume parfaitement mon corps de lâche, si tu veux. Ça me pose absolument aucun problème. Ce soir au menu de l'after, le retour des avis tranchés, celui de Daniel Riolo et de Jonathan Macardy, bien entendu. Retour sur l'affiche de la 22e journée de Première Ligue, Arsenal-Chelsea. On sera également en Espagne avec Fred Hermel. Et puis voilà, on vous rappelle tiens, les résultats justement de ce soir. On va aller voir ce qui se passe d'ailleurs du côté des Emirates entre Arsenal et Chelsea. Arnaud Valadon.
62 minutes de jeu, attention avec ce ballon dans la surface de réparation avec Mesut Özil qui a essayé de mettre en retrait aussi, mais pas de solution. Arsenal qui est en train de pousser les Emirates, toujours 0-0. On a vu Lacazette notamment buter dans la surface de réparation sur un très grand Thibaut Courtois, et un peu plus tôt dans cette deuxième période c'est Chelsea qui a eu une occasion avec la frappe d'Eden Hazard repoussée par Petr Cech, et ensuite c'est Bakayoko qui centre au deuxième poteau pour la tête de Marcos Alonso, dévié une nouvelle fois par Petr Cech. Mais là les Gunners sont véritablement dans un temps fort, un peu moins d'une demi-heure à jouer, les Emirates 0-0 entre Arsenal qui a besoin de gagner et Chelsea.
Merci beaucoup Arnaud. Autre résultat également ce soir, coupe de finale d'Italie. Arnaud Valadon, on va aller le retrouver. Ça bouge entre Arsenal et Chelsea.
Et superbe but, Jack Wilshere, effectivement. Et c'est mérité pour Chelsea qui ouvre la marque. Les Emirates avec cette frappe du gauche au premier poteau. Thibaut Courtois qui est un petit peu court là-dessus. Voilà, c'est mérité parce que franchement, depuis 10 bonnes minutes, Arsenal poussait 1-0 donc dans le derby de Londres entre Arsenal et Chelsea. Le but signé Jack Wilshere.
Et ben voilà, il est lancé ce derby entre Arsenal et Chelsea.
Il était déjà lancé en première période.
Il y a un nombre d'occasions assez hallucinant.
Il y avait beaucoup de rythme,
Est-ce que ça ne redeviendrait pas un vrai joueur de foot cette année?
Il fait une très belle saison, Wilshere. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal du tout.
On sait le potentiel qu'il a, s'il met un peu d'ordre dans sa vie privée et qu'il retrouve une certaine hygiène
de vie. Ça fera plein de lucarne. Hein. Ouais. Et ben, la frappe de Wilshere. Et donc 1-0 pour Arsenal face à Chelsea. On a dépassé l'heure de jeu. Quart de finale de Coupe d'Italie, la Juve mène 1-0 face au Torino. On est à l'heure de jeu. Huitième de finale aller de la Coupe du Roi. L'Atlético de Madrid s'est imposé à Leida 4-0 avec un but de Griezmann et de Torres notamment. C'est la mi-temps entre Cadiz et Séville. Et Séville mène 2-0. Las Palmas mène à la mi-temps 1-0 face à Valence. Et puis ce soir, il y a également du foot au Portugal. Feirense face au FC Porto, c'est bientôt la mi-temps. Il y a un partout entre les deux équipes. Et il y a surtout le derby.
Oui.
Il y a le derby entre le Benfica et le Sporting ce soir. Et à noter que pour l'instant, le 1 partout entre Feirense et Porto pourrait faire les affaires du Benfica ou du Sporting. Messieurs, on va se faire quelques petites infos mercato pour. Il y a un foot tout court d'ailleurs.
Il y en a.
Ah, attends, il y a des trucs, mon gars.
Ah, je veux savoir.
Tu vas kiffer, champ.
Mercato, je veux savoir.
Je sens que tu vas kiffer.
Peut-être balle de 2-0 pour Arsenal.
Yenine Bakoto qui quitte QPR pour Guingamp. Ça, je sais que ça va te parler, mon Daniel. Attaquant de 25 ans, formé au FCMS international.
Là, je continue à regarder Arsenal-Chelsea. Tant que c'est des infos de ce type-là, tu vas pas me troubler.
D'accord, ça va aller.
Je te laisse continuer parce que Arsenal-Chelsea, ça, c'est en train de chauffer un peu. Là,
il y en a au moins un de vous deux qui va tiquer. Et je pense que c'est celui qui est à ma droite. Voilà, le Bakoto qui va signer, qui a signé d'ailleurs du côté de Guingamp. Il portera le numéro 12 et ça, c'est très important. Il a signé pour 3 ans et demi. Vieto arrive à Valence. Attaquant argentin de 24 ans qui sera prêté par l'Atlético de Madrid. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui. C'est un peu curieux avec ce très bon joueur d'ailleurs. Il a jamais réussi à s'imposer là-bas.
Je pense que en Argentine, tout le monde voyait que c'était un phénomène, mais
Villarreal était pas mal. Hein.
Villarreal, c'était très bien aussi. C'est la saison qu'il a fait, mais je pense quand même qu'il manque un petit peu de physique. Enfin, il reste quand même très frêle. Tu sens qu'il manque un peu de puissance. Il se fait bouger assez facilement. Et c'est con parce que s'il bossait un peu là-dessus, enfin, il a tout pour être un très bon joueur.
Il est annoncé du côté du Sporting. Au dernier moment, il a fait faux bond, il est parti au
côté de Bordeaux aussi, apparemment.
T'aimes pas Vieto, Daniel? Ça te fait rien, Luciano Vieto?
Non, je suis encore dans Arsenal-Chelsea.
Alors là, si t'es encore dans Arsenal-Chelsea, mon gars, c'est que tu connais pas, là.
Vas-y, la suite.
Le Bayern intéressé par Goretzka. Il est en fin de contrat, le milieu de terrain de Schalke 04. Beaucoup de clubs sont intéressés par lui.
M'étonne.
Il a été annoncé en Espagne, il a été annoncé également du côté de Liverpool. Confession du directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidžić, à la presse allemande. Goretzka est un grand joueur, mais il est un joueur de Schalke 04 et nous respectons cela. Il est aussi international allemand et nous pourrions être intéressés. Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern, lui a déclaré « Certaines équipes espagnoles sont également intéressées, nous devons attendre, mais c'est quelqu'un de très bien et je l'aime bien. » Ça, c'est un super joueur.
C'est un super joueur, on l'a vu cet été pendant la
Coupe des
Confédérations, il a été énorme. Il est énorme en club. Ouais, non, mais c'est un excellent.
Tous les bons joueurs allemands finissent par le Bayern, non ?
Toi, tu le vois aller là-bas, du coup ?
C'est une obligation.
Ouais.
Il a tout.
Ça fait un moment qu'il a annoncé là-bas.
Il est puissant, il est intelligent, il est technique, il a une super vision du jeu.
Oh, penalty pour Chelsea, et oui, obtenu par Eden Hazard.
Alors, on va aller voir ça du côté de l'Emirates avec Arnaud Valadon. On rappelle qu'Arsenal mène 1-0 face à Chelsea, Arnaud Valadon, et ça risque de bouger là.
Effectivement, après seulement 3 minutes après l'ouverture du score signé Jack Wilshere, les Blues, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus dans la moitié de terrain d'Arsenal. Et bien, c'est Eden Hazard qui provoque ce penalty. Arsène Wenger n'est pas content, il s'en prend une nouvelle fois à l'arbitrage, mais c'est vrai que après cette décision, c'était à West Bromwich Albion.
C'est Bellerin qui laisse traîner le pied.
Sur cette action,
c'est
on voit.
Qui chute dans le pied.
Ouais, enfin, il joue absolument pas vraiment le ballon.
Bah, enfin, ça peut. À partir du moment où ça peut.
Il y a contact, il y a faute, surface,
Il l'empêche de développer son action.
Exactement.
Donc il y a péno.
Et du coup, Eden Hazard qui va visiblement se charger lui-même de ce penalty pour permettre à Chelsea de revenir dans cette partie. 66 minutes de jeu, 1-0 pour Arsenal face à Chelsea, mais un avantage donc acquis il y a à peine 4 minutes. Eden Hazard face à Petrosic, c'est contre-pied parfait, l'égalisation à l'Emirates, signé Eden Hazard. Un partout.
Wenger va encore chouiner contre les arbitres. Ouin ouin Wenger, ouin ouin.
Oh là. Et là, partout donc entre Arsenal et Chelsea, égalisation à l'instant même sur penalty d'Eden Hazard. Pas mal ça. Ah, voilà. On rappelle que si Chelsea s'impose, il passe devant Manchester United au classement et il prendrait la deuxième place sur le podium.
Là, dans cette seconde période,
c'est dur. Attends, le contact, c'est les deux qui vont.
Arrêtez avec le. Il est pas ouf. Il y a un contact dans la surface.
Mais le contact, les deux vont.
Non, il y a pas les deux.
Tu vois bien qu'Hazard, il a le pied aussi.
Hazard met le pied pour jouer le ballon. Bellerin rate le ballon et shoot dans Hazard.
Non, mais c'est de l'interprétation.
Non, les deux, le contact est mutuel.
Non, toi, tu trouves qu'il est sévère.
Oui, il est sympa. Bah,
donc il y a péno.
Non, mais il est sympa. Quoi.
Tu dis pas qu'il y a pas.
Non, j'en sais. Bah, il y a péno, parce qu'il a été sifflé.
Non, mais il y a contact, il y a pas contact.
Moi, je pense qu'à
partir du moment où il y a contact, ça peut siffler, c'est tout. Ouais. Okay. Après, si toi t'es arbitre et t'as pas envie de le siffler, c'est ce que tu veux. Mais il n'empêche qu'il y a contact. Il est pas tombé du ciel. C'est pas une invention de l'arbitre.
Le contact est mutuel.
Il y a contact. Bellerin shoot dans Eden Hazard. Il lui tape dans le talon. Voilà. Donc il y a péno. Il y a même pas à discuter, c'est.
Bah si, il y a à discuter. Mais
non, il y a pas à discuter.
C'est pas parce qu'il y a contact qu'il y a forcément péno, Daniel.
Ouais, mais l'interprétation, c'est pas la tienne, c'est celle de l'arbitre.
Bah, c'est ce que je te dis. À partir du moment où il a dit,
donc
péno,
ça se discute pas.
C'est sévère, c'est tout.
Mais donc sévère, ça veut pas dire dans les règles du foot, sévère. Il y a une latitude.
Non, mais là, c'est joué.
Entre sévère, tu vois, il y a plein de choses dans un péno. Oh, peut-être.
Oula, la défense d'Arsenal, les mecs, quand même.
Bakayoko, je comprendrai jamais à Chelsea pourquoi il joue si haut, quoi. Il a pas la technique pour jouer si haut. Il se retrouve souvent dans des positions avantageuses, dans la surface de réparation, et à chaque fois, il sait pas quoi faire du ballon.
Mais si on poursuit nos petites infos également, on parlait de Goretzka, tiens.
Non, on avait dit que tous les bons joueurs allemands finissaient de toute façon par aller au Bayern, donc il y a des chances quand même qu'il y aille.
Il y a quand même des chances. C'est vrai qu'on en parlait déjà d'ailleurs au moment de la Coupe des Confédérations, de la possibilité que Goretzka puisse aller au Bayern. Tiens, une petite info également, vous savez que du côté de Lille, ils essaient de rapatrier des joueurs prêtés puisqu'ils sont interdits de recrutement, donc il y a la possibilité.
Ton pote, il va revenir ?
Alors Eder, c'est pas... on en parlait d'ailleurs hier. Ouais. Il ferme pas la porte à un retour, Eder. Il y a surtout Cheka aussi qui est prêté à Dijon. Alors info RMC Sport également. Vous savez qu'ils sont furax, les supporters de Dijon, parce qu'il y a un contrat qui a été signé entre les deux clubs. Le joueur est prêté jusqu'à la fin de la saison, et c'est vrai que le rapatriement du joueur ne peut a priori se faire sans l'accord
du
club.
Si le club est d'accord.
Alors moi qui ai une clause, donc on n'a pas le contrat entre les mains. Et les dirigeants de Dijon, du coup, bah ils sont pas contents de savoir que Lille essaye de faire revenir Cheka.
Bah ils sont qu'à dire non.
Oh, mon rata,
il y a une clause d'être forcément sous
son privé. Oh là là, c'est en train de chauffer vraiment le match. Il devient excellent là. Parce que Arsenal a été dans un temps fort du début de la seconde période jusqu'à ce péno. Et là, Chelsea se retrouve avec beaucoup de balles de contre à jouer et des situations très intéressantes. Morata, il a un peu bouffé aujourd'hui hein, quand même. Hein. Il a eu une balle énorme.
On était avec un éditeur de face-à-face de Chelsea tout à l'heure, c'est ce qu'il nous disait également.
Il a mangé une énorme face-à-face tout seul devant Tchèque.
Tiens, on était.
Et là, il rate encore. Là.
On évoquait tout à l'heure.
Et Conte est en train de s'arracher ses faux cheveux.
Ancien de Villarreal. En plus, vu que le prix que ça lui a coûté, il devrait faire gaffe. Hein.
Oui,
on était à Villarreal tout à l'heure.
À ce niveau-là, de revenu, tu peux te payer des faux cheveux de qualité.
Ouais, je sais pas. Tu vois, c'est pas facile.
Comment ça?
Bakambu vers la Chine, messieurs. Le buteur de Villarreal est sur le point de s'engager avec le Beijing Guoan pour 40 millions d'euros. International de la RDC, lui aussi. Il a planté 14 buts cette saison. Il a quand même planté 48 buts en 105 matchs depuis qu'il a Villarreal.
Et qui est-ce qui joue Villarreal en Europa League?
Tu vas à Lyon.
C'est Lyon qui joue Villarreal?
C'est Lyon, hein. Ouais.
Ou c'est pas Marseille?
Non, c'est Lyon.
Ah, bah c'est.
Et donc il devrait signer là-bas pour il est
combien de salaire?
40, ça j'ai pas les chiffres. En tout cas, c'est le meilleur buteur de Villarreal depuis qu'il a rejoint le club en 2015-2016. C'est un bon joueur
c'est un très bon joueur, j'espère qu'il va bien se régaler là-bas.
Ah bah là, il va pas se gaver.
Et bah c'est une belle opportunité hein.
Il se gave, il met du monde à l'abri. Un classique.
Tiens, une petite info également qui concerne un Français, André-Pierre Gignac. Alors, qui est au Mexique.
C'est pas une info.
On va y revenir.
C'est une fake news. Il va avoir une loi contre les fake news, là.
Merci, président.
Ah, ça va, c'est ton ami président qui va faire ça.
Il est au Mexique depuis 2015, André-Pierre Gignac, le français de 32 ans qui intéresse pas mal de clubs. Le Beşiktaş serait sur le coup. Et Boca Junior en Argentine. Alors, c'est une information du quotidien Chronica.
Mais Boca, il peut lui filer le salaire qu'il
a. L'option, au cas où Tevez
en Turquie,
ne signerait pas, si on pouvait ne pas parler de ça en même temps, s'il vous plaît. Au cas où Boca ne parviendrait
pas
à faire revenir.
Il y a toi qui parlais, moi qui te coupais.
Ouais, c'est
on
ça.
On était que deux. En
fait. Ouais, mais c'est relou quand même. Tu vois. Il y a des gens qui nous écoutent des fois. Il serait l'option au cas où Boca ne parviendrait pas à faire revenir Tevez. Alors toi, tu dis fake news.
Mais comment il paierait son salaire?
Mais Boca, ils n'ont pas les moyens.
C'est pas possible. Tu sais, il a un salaire qui
en
est
Turquie,
le plus gros ou un des plus gros salaires du continent. Et d'une part, je le vois mal quitter les Tigresses.
Il a même fait une déclaration où il se verrait d'ailleurs intégrer le staff au terme de
intégrer
de sa
le staff, finir sa carrière, vivre là-bas, que son gamin ait la double nationalité, même son gamin qui est né là-bas. Je le vois avec beaucoup
tu
de mal.
Tu sais d'où vient l'info?
Dans le journal.
En fait, non. Alors c'est pas qu'un journal. En fait, il y a un agent qui s'est fait passer pour celui qui a fait signer André-Pierre Gignac au Mexique.
Qui n'est pas le cas.
Voilà. Et il a déclaré que Boca était sur le coup justement.
Mais Boca de manière, c'est impossible. Niveau salaire, c'est pas envisageable. Donc ça s'arrête là quoi.
Ouais, il est bientôt en fin de contrat en plus, André-Pierre Gignac.
Ouais, j'aimerais qu'il revienne à Marseille, mais.
Toi, tu veux qu'il revienne, toi?
Bah, Marseille, il paye pas
jamais
son salaire.
Il aurait jamais. Ouais. Si, il a le même, en fait. Il y a eu beaucoup de fantasmes, en fait, il a le même salaire que ce qu'il avait à Marseille. C'est juste l'imposition qui est plus avantageuse, mais apparemment avec le nouveau propriétaire il y a plus d'argent.
Ouais, mais le Marseille peut pas en prendre un choix, il est plus tout jeune.
Non, mais oui,
peux
bien
plus
sûr.
Investir autant.
Mais c'est pas toujours romantique un petit peu, mon ami. C'est pas ça. Genre, je trouve que l'histoire s'est terminée un peu. Même si elle a été longue de 5 ans, j'aurais aimé qu'elle se termine jusqu'au bout.
Et elle a été bonne combien d'années?
3 ans, 3 ans et demi.
Il a fait trois années.
Très belles saisons, oui.
Ah oui.
Deux avec Bob et une avec Bielsa.
Ça me paraît beaucoup, mais si tu dis
les deux
trois,
avec Bob et une avec Bielsa,
si toi tu juges que c'est bien, 3 ça me paraît beaucoup.
Bah non, les deux avec Bob, ça lui font deux. Celle d'après, où c'est plus difficile, mais il porte l'équipe.
Ah, il porte l'équipe. Alors,
et celle avec Bielsa.
Entre 2012
moi,
et 2015,
j'envoyais deux. Moi.
Il fait une saison à 22, une à 22, une à 24 buts. C'est pas
tu
mal.
Vois
quand même.
Ça fait 3. Oui.
Une quarantaine de matchs.
Celle à 18, c'est celle où il fait.
J'ai deux en tête, moi.
C'est les deux, avec Deschamps qui sont pas bien.
Ah, donc c'est à l'envers que je le vois alors.
Ouais, il a commencé par
une première saison. Non, il commence au début, il y a beaucoup de problèmes.
Et après, c'est bon.
Ça va pas.
La deuxième saison,
il est même sifflé par le Vélodrome.
Il met deux buts en 27 matchs.
Vous vous rappelez l'épisode avec Amaury où il doit partir?
Il y a une saison où il met des buts, mais en fait, la saison de l'OM est pas bonne. Ça doit être pour ça que.
C'est ça avant que Bielsa arrive.
C'est ça.
Mais il porte l'équipe sur son doigt avec André Ayew.
Toi, t'aimerais voir André-Pierre Gignac du côté
non,
de
non, mais ça, c'est un petit faux. Mais non, mais
là,
il est
dans la romance.
C'est un rêve qui serait même pas bon. Si ça arrivait, je trouverais que ça serait bête.
Je pense que t'es resté dans les fameux vœux qu'on avait émis hier, c'est ça?
Mais bien sûr, mais en plus, c'est même pas une bonne idée. Oh ouais. C'est juste.
Les vœux Miss France, effectivement. Voilà. Merci.
J'ai juste envie de se faire un petit kiff.
Ouais, si je pouvais, je ferais revenir André Ayew, Gignac, ceux qui sont partis et qui n'auraient pas dû partir.
Là, c'est du masochisme, là, c'est plus du kiff. Tiens, Clément, supporter de l'OM, nous a appelé au 32-16. Salut Clément.
Ça va les gars?
Voilà, allez mon gars.
C'est pour voir qu'ils partagent ton kiff.
Bon alors, t'en penses quoi toi du souhait, du vœu, du rêve de Jonathan Lacardé de vouloir Gignac à l'OM?
Effectivement, c'est un peu, comme dit Jonathan, une fake news. En plus, quand on voit la position qu'a pris Jacques-Henri Hérault il y a quelques temps, il nous fait bien comprendre que ça va très peu recruter et qu'en plus, il mise sur la formation. Voilà, bon après, si c'est une bonne opportunité, que ça coûte 0€ et qu'il vient effectivement dépanner un peu devant, ouais, mais après... Ça correspond pas trop au projet, mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude qui a été mis en place. Et après avoir fait.
Mais bien sûr que tu as raison, mais j'ai dit ça comme ça, c'était évidemment. Project, quoi.
Voilà, donc je pense que ça, c'est pas en faisant revenir André-Pierre Gignac que tu vas satisfaire les supporters de l'Olympique de Marseille.
Mais bien sûr, mais mon ami, mais bien sûr, j'ai dit mais ça, mais je suis tout à fait d'accord, c'était une boutade.
Voilà. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire.
Fais pas de boutade avec l'OM, Jonathan. Tu déconnes un peu, là, mon vieux.
Ça n'a pas fait au président.
Là, je sais pas, là, t'es là, comme ça. C'est quoi cette légèreté, là?
C'est pas de boutade. J'ai toujours du mal un petit peu à finir les belles histoires.
Tes petits fantasmes et tout, là. Non, non, il n'y a pas de ça, là. Supporter de l'OM, ne rigole pas, là. Va pas emmerder avec tes retours, là.
Ça, on attend le grand attaquant.
Il a pas envie de se marrer, là, l'auditeur, là, tu vois. Il rigole pas.
Non, quand on parle de Marseille, les mecs, c'est sérieux. C'est le seul moment, t'as vu, où il faut un petit peu être sérieux. Allô?
Ouais, on est là, Clément.
Non, mais on a un problème technique. On t'entend un mot sur deux parce que parfois il y a des moufles.
Bon, merci de nous avoir appelé en tout cas, Clément.
Avec plaisir, les mecs.
Bonne soirée, bonne année à toi, mon Clément. Merci, salut.
C'était sympa sur la fin, Clément. Il a un peu crié pour qu'on l'entende un peu plus.
Voilà, faut crier, Clément. C'est pour ça que je criais tout à l'heure. Les gens n'entendent pas au final. Tiens, autre info également, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un transfert, un record qui a été atteint au niveau des transferts au Japon. Vous vous souvenez de Jo, l'ancien attaquant de City? L'attaquant brésilien, là?
Oui.
Ah,
oui.
Là, ouais. Monsieur Jo.
Exactement. Il a quitté le Corinthians pour le Japon. Il a signé au Nagoya Grampus, club qui était entraîné à l'époque par Arsène Wenger. Il avait terminé meilleur buteur du championnat brésilien la saison dernière.
Monsieur Jo, il était à la Coupe du Monde, en plus.
Oui.
Le Brésil, il était dans l'équipe.
Ouais, exactement.
C'était soit Monsieur Jo, soit Fred qui jouait.
Et vous savez combien il a coûté? C'est pas énorme, hein. Record de la G-League. 11 millions d'euros. Voilà. Ouais. Voilà. Il a signé là-bas notre.
En même temps, on a du mal à se souvenir du dernier but qu'il a marqué.
Bon, au Brésil, il en a mis pas mal.
Ouais.
Et petite info également concernant El Kun Agüero. Vous savez qu'il y a pas mal de rumeurs, annonçant un possible départ d'El Kun Agüero. Ses rapports seraient tendus, avec Pep Guardiola. Il a répondu hier sur Sky Sports. Alors, je vous laisse interpréter cette phrase. Je suis sous contrat jusqu'en 2020. J'espère l'honorer jusqu'au bout. Je suis très heureux ici. Mais comme je l'ai déjà dit, le dernier mot appartient au club. Voilà.
Mais son plan, il l'a dit plusieurs fois. Il veut aller jusqu'au bout en 2020 et retourner à l'Independiente, dont il a financé une partie du stade.
Ah ouais, c'est lui qui a payé.
Bah c'est pas lui qui a payé, mais il a aidé.
C'est pas mal ça.
Beaucoup de joueurs argentins sont très attachés
au club
d'où ils viennent et font des choses pour le développement.
Avant sa prolongation précédente, il pensait déjà même à retourner au pays, mais bon, il s'est peut-être rendu compte qu'il y avait encore un peu d'argent à se faire et qu'il était, c'était peut-être un peu prématuré, mais il a fait cette promesse d'aller au bout de son contrat et de retourner là-bas. Et je pense qu'il le fera.
Ah non, peut-être qu'au bout d'un moment, il a perdu sa place de titulaire. Bon, là, il joue parce que Gabi Jésus est blessé.
C'est vrai.
Mais on a le sentiment que sur un gros match, si les deux sont dispo, c'est plus Jésus qui jouera. Je sais pas s'il est juste. Et comme tu dis, ça tourne beaucoup. Mais peut-être que ce gars-là dit qu'il a pas vraiment envie de tourner et qu'il doit être titulaire dans une grosse équipe, quoi.
Est-ce que tu penses que c'est pas le profil aussi? On sait que Guardiola est pas forcément très fan des vrais neufs.
C'est vrai.
Mais c'est pas vraiment. C'est pas qu'un.
Ah, c'est plus un vrai neuf que Jésus.
Mais c'est pas un plot, un pivot,
ça,
un mec comme un mec qui joue pivot.
Il pourrait aller voir ailleurs.
Il a un registre qui est quand même assez large. Tu vois.
Oui, mais sur le terrain, c'est un neuf.
Ouais, il joue neuf. Hein.
Oui, mais oui.
Quand tu le mets sur le terrain, il joue neuf. Après, qu'il sache faire autre chose. Évidemment, il sait faire autre chose.
Il joue dans l'axe, mais c'est tout faire.
Oui, non, mais certes, c'est un neuf.
Est-ce qu'il veut faire autre chose aussi?
Et est-ce qu'il veut le faire ailleurs? Est-ce qu'il veut le faire ailleurs?
Où
il jouerait tout le temps et en étant titulaire. Voilà.
Une dernière petite info un peu exotique. Vous vous souvenez d'Eduardo da Silva, l'attaquant d'Arsenal et du Shakhtar?
Le croate.
Exactement. D'origine brésilienne.
Le vrai faux croate.
Exactement. 34 ans maintenant. Et l'info a été révélée par le club polonais du Legia Varsovie. Il passait aujourd'hui sa visite médicale et devrait signer avec le Legia Varsovie à 34 ans. Il était au Brésil ces derniers temps.
C'était un super joueur jusqu'à ce qu'il se fasse découper en 10 par je ne sais plus quel boucher.
Ouais, il a jamais vraiment.
Il faisait une très grosse saison au moment où il se fait découper. Là, je crois qu'il était à 24 buts, quelque chose comme ça.
Ouais. Il était à l'Atlético Paranaense avec notre ami Lucho au Brésil. Il a résilié. Maintenant, il va donc s'engager en Pologne. Et dernière petite info également, vous avez peut-être suivi ça également. Victor Valdés, l'ancien gardien du Barça et Manchester United, plus du Barça d'ailleurs, ou du Standard. Eh bien, alors, c'est assez curieux. Il a publié un message sur son compte Twitter en disant merci pour tout. Et derrière, il a tout coupé, c'est-à-dire il a tout effacé, et ça a été sa façon à lui d'annoncer la fin de sa carrière. Il a 35 ans, celui qui est maintenant ancien gardien. Donc.
Et Lacazette ne terminera pas le match.
Comme d'hab.
Il a du mal, Lacazette.
C'est le joueur le plus remplacé.
Pourtant, moi, je trouve que vraiment, il fait ce qu'il faut. Quoi. Il se bat, il se procure des occasions. Mais le Arsenal est
peut-être pas le meilleur choix qu'il ait fait, quoi.
Bah, le coach, c'était un
choix,
pas,
c'était une sorte de choix par défaut, puisque c'était pas là-bas qu'il voulait aller. Ouais, il a mis quoi, 8 buts depuis le début de la saison.
Ouais, c'est le meilleur
c'est
but.
Pas énormissime. C'est dans une équipe qui tourne pas génial.
C'est le joueur qui est le plus remplacé.
Moi,
de,
je le vois
de
pas sourire. J'ai pas l'impression qu'il s'éclate vraiment dans cette
équipe. Il a jamais été très expressif à ce niveau-là.
Sourire, ce que je voulais dire, c'était pas qu'il affiche un grand sourire, c'est qu'il a l'air heureux, quoi.
Épanoui.
J'ai pas l'impression qu'il est complètement épanoui dans cette équipe.
Mais c'est le collectif qui tourne pas rond.
De toute façon, il est vachement dépendant de ça. C'est pas lui la vedette. Il y a Ozil et Alexis Sanchez qui sont devant lui.
Enfin, il va peut-être être tranquille à ce niveau-là.
Lui, il finit pas les matchs. Pourtant, moi, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher quand il y est sur le terrain. Hein.
Non, il fait le taf.
Il fait le taf. Hein. Il y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais pas le sentiment qu'il soit allé à Arsenal à la bonne période, quoi. Et que ça favorise son épanouissement perso et sa carrière.
Il reste 10 minutes à jouer entre Arsenal et Chelsea.
Pas vu qu'il a remplacé, en fait.
On va aller faire un petit tour du côté des mérites. Bon, on va demander tiens, Arnaud Valadon qui est en train de suivre ce match, Arnaud.
Ouais, c'est Danny Welbeck qui a remplacé Alexandre Lacazette. Okay. Un peu moins de 10 minutes à jouer, un partout. Il a quand même eu deux grosses occasions. Hein. Et à chaque fois, il a buté sur Courtois, Alexandre Lacazette. Ça fait le sixième match où il est titulaire, où il ne marque pas. Alors, il a fait trois passes décisives lors des trois dernières sorties. Mais c'est vrai qu'on voit que beaucoup de ballons, hein, pour rejoindre tes propos, Daniel. Ah, c'est pour Ozil, c'est pour Sanchez. Et que lui, eh bien, il n'est pas forcément la première option en attaque. Et qu'il fait beaucoup d'efforts sans être forcément servi. Donc, c'est vrai qu'on sent.
Ah, ça, les efforts, il est fait. Hein, l'état d'esprit est là. C'est, il n'est pas transparent, hein, avec la tête.
Mais voilà, on sent qu'il a un peu de mal à être complètement dans ce collectif des Gunners qui, mine de rien, font plutôt un bon match. Attention à ce centre. Danny Welbeck qui sera un petit peu court au centre. Un partout, donc entre Arsenal et Chelsea. C'est un résultat qui irait bien aux Blues, hein, qui resterait
troisième. Il serait pas très loin de se faire planter en fin de match par Chelsea, les Gunners. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Arnaud?
Mais c'est vrai qu'un peu, quand on regarde la saison des Gunners, c'est surtout le match il y a quelques jours à West Bromwich Albion où il y a cette égalisation. Et c'est vrai que Chelsea attend un petit peu derrière, et quand on a vu la défense un petit peu à trois là de Arsène Wenger avec Mustafi, Holding et Chambers, il y aura peut-être une petite opposition, alors que là c'est une petite opportunité, alors que Eden Hazard qui a beaucoup forcé dans cette partie est remplacé par Willian. Un peu moins de 10 minutes à jouer à l'Emirates, 8 minutes pour être précis, un partout entre Arsenal et Chelsea.
Merci beaucoup Arnaud, et pour être très complet, Daniel, effectivement il a claqué 8 buts cette saison en 21 matchs de première ligue, Alexandre Lacazette.
Sur Agüero, je remercie Eric qui m'envoie, qui me dit que c'est bien qu'Agüero, en fait, c'est lui qui a joué tous les gros matchs avec City, en fait, depuis le début de la saison. Tottenham, Arsenal.
Ouais, mais soit il les a joués avec, mais il les a joués à la place,
Ou les deux,
aussi un peu, hein.
À la place.
Ouais, mais ça arrivait rarement quand même, de mettre les deux. Il a souvent mis l'un ou l'autre.
Mais bon, c'est vrai qu'on a toujours posé des questions sur les relations qu'il entretenait avec Guardiola, et que ça n'a pas toujours été très fluide, quoi.
C'est vrai. Ça avait l'air d'aller mieux, en tout cas, cette saison. On vous attend au 32-16. Dans quelques instants, c'est le grand retour des avis tranchés de l'after. Celui de Daniel Riolo, tout d'abord, il concerne Mariano, le joueur de l'Olympique lyonnais. Daniel, c'est ça?
Exact.
Et Jonathan Macardier, il concerne Christophe Galtier, du côté du LOSC. Voilà, qui est en stage en ce moment en Espagne. On vous attend donc au 32-16.
Voilà, Chelsea, ils ont marqué.
C'est qui, c'est? Est-ce que c'est William?
Ah, c'est Marco Salonzo.
Eh, tiens! Eh, Arnaud Valadon!
Je le sentais un peu,
Marco,
ou pas?
Marco Salonzo, effectivement, Daniel, tu l'as bien senti, ce but. 2-1, 7 minutes de la fin avec ce centre venu de la droite de Zappa Costa qui était rentré en cours de jeu, et Marco Salonzo qui avait failli marquer tout à l'heure sur une tête. Eh bien, il vient couper la trajectoire à l'entrée des 6 mètres devant des défenseurs d'Arsenal. Eh bien, assez statique, et ça fait 2-1 pour Chelsea face à Arsenal à l'Emirates. Il reste moins de 7 minutes à jouer.
Et encore un but espagnol pour Chelsea, qui est l'une des équipes en Europe qui a le plus de buts marqués par des Espagnols. Allez, on vous attend dans quelques instants pour la suite de l'after avec les avis tranchés de Daniel Riolo et Jonathan Macardy. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Et Jonathan Macardy et Daniel Riolo, et vous au 32-16. Il reste quelques minutes à jouer entre Arsenal et Chelsea. 5 exactement, Arnaud Valadon. Et Chelsea, eh bien, vient de renverser Arsenal, Arnaud. Hein.
Ouais, et puisque Arsenal menait 1-0 avec ce but de Wilshere à la 63e, et désormais 2-1 pour Chelsea avec l'égalisation d'Eden Hazard sur penalty à la 67e. Et là, à l'instant, donc, Marcos Alonso à la 84e. Et c'est vrai qu'on a revu les ralentis. C'est pas possible qu'un joueur puisse comme ça à l'entrée des 6 mètres être seul. C'est Mustafi qui voit passer devant lui Marcos Alonso. Petr Cech ne peut rien sur cette ligne, et les Gunners qui doivent réagir, parce que là c'est vrai que ce match, on l'annonçait, important. Ils sont à 6 points de la 4ème place détenue par Liverpool, et synonyme donc de Ligue des Champions, et ça ferait beaucoup et peut-être un écart que les Gunners ne seraient pas en mesure de combler. Du côté de Chelsea, eh bien pour l'instant cette victoire à l'Emirates serait une bonne opération au classement. Ils seraient deuxième, les joueurs d'Antonio Conte. Attention peut-être à la réaction des Gunners justement à l'entrée de la surface de réparation, avec Danny Welbeck qui est obligé de jouer derrière. Mais là du côté des joueurs de Chelsea, on est venu tous défendre, ça va être peut-être compliqué pour les Gunners. Attention toutefois au deuxième poteau, et finalement la tête de Gary Cahill, et ça revient dans un deuxième temps avec la tentative de Bellerin. Les Gunners qui vont tout faire pour égaliser. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 2-1 pour Chelsea face à Arsenal.
Merci Arnaud, donc on va revenir dans quelques instants avec toi pour les derniers instants de
ce match. Regardez les fiches de Gabriel Jesus Agüero, quand tu dis partage, quand même 18 matchs, 17 matchs, Agüero a mis plus de buts, 12 titularisations Jesus, 15 pour Agüero, c'est rare côté 2-9 dans une équipe qui partage autant le jeu. Agüero est devant dans les stades,
dans les gros matchs. C'est lui qui joue les matchs importants.
C'est incroyable quand même.
Après, et Agüero a eu ses pépins physiques aussi, qui l'ont pas.
Ah, l'accident de voiture, c'est vrai.
Non, mais puis il s'est gravement blessé la saison dernière.
Il avait jamais fait une saison à moins de 20 buts. Si, de 2012-2013-14.
Tu parles d'Agüero.
Ouais,
c'est le meilleur buteur de l'histoire du club quand même. Il a atteint ça cette saison. On va passer aux avis tranchés. On va commencer par le tien, Daniel.
On peut se livrer à une séance d'onanisme sacralisé toute la nuit sur Benzema. Si t'as envie, on peut tous s'y mettre. On peut se mettre debout sur la table, le pantalon baissé. Mais j'en ai pas envie.
Voilà.
Coquin, va.
Alors, il concerne aussi un Lyonnais, là, d'ailleurs. C'est pas Benzema, ton avis tranché ce soir, Daniel, mais c'est Mariano.
Oui, parce que j'ai vu pendant les vacances, on va revenir sur ce fait, et puis je sais pas du tout, en plus, quand aura lieu sa fameuse convocation, et j'ai donc appris qu'il serait convoqué. Mariano, et j'ai lu ce qu'en a pensé Jean-Claude Aulas et
Jean-Claude.
Comment j'ai dit ?
Jean-Claude Aulas, t'as dit ?
Jean-Claude.
Pourquoi Jean-Claude ? Tu penses à un mec qui s'appelle Jean-Claude, non ? Jean-Claude Aulas.
Jean-Michel.
Entre Jacques-Henri Hérault, que t'appelles Charles-Henri de temps en temps, et on marque comme ça, il y a la parité. Hein.
Jean-Michel Aulas, qui a trouvé que la convocation était grotesque. Eh bien, moi aussi, je trouve que c'est absolument grotesque. Mais je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Je pense que Jean-Michel Aulas, lui, c'est juste parce que je regarde Arsenal et Chelsea en même temps, ça me fait un peu bafouiller, mais la fin de match est quand même assez démente, quoi. Donc on aurait dû faire les avis tranchés après, mon petit Nico, si tu me permets, parce que cette fin de match, elle est quand même assez folle. Il reste 3 minutes et non, on continue.
Tu veux Ouais, non, continue.
Ouais, je sais pas, moi j'aurais bien vu la fin de match.
En même temps, si tu le fais déconcentrer, ça sert à rien.
Ouais, très bien. Non, mais je suis un peu déconcentré parce que.
Non, alors tu sais quoi ? On va se faire les deux dernières minutes avec Arnaud Valadon. On va vivre la fin de ce Arsenal-Chelsea, Arnaud. Avec toi.
2 minutes encore à jouer. Changement du côté des Gunners avec Chambers, défenseur qui est sorti. Rentrée de Théo Walcott. Donc voilà, Arsène Wenger qui fait entrer un attaquant, parce qu'ils vont tout donner les Gunners, ceux qui semblent distancés dans la course.
Wenger va encore réclamer un péno.
Ouais, avec cette volée à l'instant même de Mustafi, mais
Cahill, il a le bras complètement collé au corps, mais je pense que ça peut faire moins quand même.
Bah, il va peut-être se plaindre pour le penalty sur Hazard, alors qu'il y a effectivement contact.
Alors ça, c'est certain.
Même si tu sais qu'il y a une enquête de la fédération anglaise ouverte suite à ses propos contre Mike Dean lors du match contre.
Tu veux dire qu'il va se calmer?
Je sais pas, peut-être qu'il va être mesuré pour éviter une suspension. Il avait déjà pris 4 matchs l'année dernière, je crois.
Il va peut-être prendre une grosse amende, surtout plus grosse que prévu. Mais
ouais, encore une minute à jouer. Le public de l'Emirates qui essaie de pousser. C'est Chelsea qui mène 2-1 après donc ce but de Hazard sur
cette
penalty.
Défaite, Arsenal.
Bah, et Chelsea qui avec ce résultat passe prend la deuxième place au classement. Ça, c'est important. Et Arsenal, qui du coup garderait 2 points de retard sur Tottenham, qui a un match à jouer encore à Tottenham derrière. Jouera le 4
et Chelsea
Tottenham.
Qui gagne sans faire un énorme match, sans que ce soit délirant dans la manière de jouer
devant.
C'est assez minimaliste, milieu renforcé. Je les ai vus meilleurs, Chelsea, évidemment, l'année dernière, mais là. Mais bon,
ils sont pas mal, Chelsea. Ils sont dans une bonne phase.
Ouais, c'est pas dingue à regarder. C'est sûr, ça souffre de la comparaison quand tu te mets devant City.
Ouais.
Bon, voilà, c'est le meilleur joueur, ça reste toujours. C'est toujours Kanté.
Hazard.
Ouais, il a
c'est leader technique.
Moi, je trouve qu'il est un peu isolé.
Le mec, il est devant, un petit peu abandonné. Il faut qu'il ait l'inspiration, ce qui fait qu'il est, il, parfois, c'est un peu stéréotypé. Alors, je l'ai vu faire même ce soir, là, moment, la fameuse talonnade pour Fabregas, c'était très beau. Et oui, évidemment.
Ils se sont plantés sur Costa.
C'est un très bon joueur.
Mais ils sont plantés sur Costa.
Offensivement, c'est assez limité.
Hasard, ah bah après, c'était pas jouable. C'était au Costa ou Conte.
Ils sont plantés sur le remplacement de Costa.
Quoi, Morata?
Mais Morata, c'est pas le problème, c'est que ils sont devant.
Il y a un autre profil.
Avec Hazard, il y a pas beaucoup de soutien.
Il fallait un autre profil.
Ouais, ben l'autre profil, il fallait que ce soit un avant-centre capable de cavaler comme un dingo, d'aller à la baston, tout ça. Oui, Morata, c'est plus à l'attaquant d'une équipe qui domine, qui fait du jeu, enfin d'une équipe espagnole.
Exactement.
Voilà, ça je suis d'accord. Sur le profil, oui, c'est sûr que vu le jeu de Conte, il fallait peut-être autre chose. Mais il cavale, hein, Morata. Il essaye de faire les trucs quand même. Hein. Peut-être même trop. Ça lui fait perdre en lucidité. Ah, balle d'égalisation pour Sanchez.
Arlo Valadon.
Ouais, avec les Gunners qui continuent de pousser 3 minutes à suivre Alexis Sanchez qui a buté.
Il y a beaucoup d'arrêts de jeu.
Ouais, c'est logique. Il y a eu le penalty, il y a eu 3 buts aussi. Alors, t'oublies un petit peu dans tes joueurs.
C'est fini là.
Tes joueurs qui brillent, Daniel, c'est quand même Thibaut Courtois qui a fait des arrêts assez précieux, franchement.
Oui, très gros match ce soir, Thibaut Courtois, c'est vrai.
Avec le ballon sur le côté gauche pour les Gunners, avec Maitland-Niles qui a suppléé Nacho Monreal qui est blessé, et même Kolasinac qui est blessé. On a des problèmes pour animer ce côté gauche. Le ballon, s'il n'y a pas de position de hors-jeu avec Sanchez au deuxième poteau qui ne parvient pas.
Il ne voit pas
le ballon arriver, effectivement.
Ça reviendra pas.
Ouais. Vous savez, vous évoquiez Courtois, vous savez que Chelsea, il prend un but, c'est quasiment un événement. Ça faisait plus de 4 matchs qu'ils avaient manqué 7 buts, les Blues. Hein. Ils sont pas mal à ce niveau-là aussi, hein. C'est ce qui faisait leur force la saison dernière.
Bah, avec le nombre de milieux défensifs, ça va, c'est costaud quand même.
Quoi, je vois pas revenir.
Là, c'est le siège. Hein.
L'égalisation.
Voilà. Et ouais, l'égalisation, elle est méritée pour les Gunners qui ont tant donné. Hector Bellerin, c'est son premier but en première ligue. Évidemment, l'Emirates Stadium explose. Deux joueurs Arsenal qui va peut-être aller chercher un point dans cette rencontre.
Vous pouvez marquer comme ça.
Deux buts partout entre Arsenal et Chelsea. Dire, 2 minutes à jouer encore.
Non, sur une frappe.
C'est lui qui avait concédé le péno.
Ouais, sur une frappe quasiment à l'extérieur de la surface où le ballon, c'est pas une action construite.
Elle est belle, sa frappe.
Ouais, mais c'est pas une action construite.
Il faisait le siège depuis 3 minutes. Et il est pas mal, hein. En plus, il met un plat du pied fort. C'est un beau but, hein.
Ouais, il l'avait bien,
hein. C'est un bon
but.
Deux partout entre Arsenal et Chelsea. Et finalement, c'est un résultat qui arrange personne, hein,
Et c'est un gros match. On a vu vraiment un bon. Oh, non, attends.
Oh, la surface de réparation.
Je t'avais dit qu'il fallait suivre cette fin de match. J'allais dire, on pouvait pas faire avis tranché alors qu'il restait 3 minutes dans ce match d'automne.
Ça Zappa Costa et la barre.
Il y a une balle de but énorme pour Chelsea là.
Ouais, Zappa Costa qui a trouvé la barre avec N'Golo Kanté. N'Golo Kanté est entré de la surface de réparation. Ouais. Et les Gunners qui vont peut-être pouvoir essayer de se relancer.
Mais non, Hazard est sorti.
C'est Zappa Costa qui a frappé sur la barre.
C'est Zappa Costa qui a mis sur la tête. Oh, sur la barre.
Et attention derrière parce que les Gunners ont une opportunité. C'est mal donné ce ballon.
Oh, la balle
dans la profondeur de Chaka.
Qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir? Il rate balle de but en première mi-temps.
Ça fait 3.
Il a la balle de 3-2. Il est tout seul.
3 occasions où honnêtement il doit en mettre minimum 2, hein, Morata là-dessus, si ce n'est 3. Et c'est vrai que.
Moi je veux bien qu'il me rate celle en première période s'il met celle-là. La balle de 3-2 à la 93e,
il peut tout faire oublier.
Bah, exactement.
Et Zappa Costa derrière avec presque du haut de la cheville. Il prend ce ballon.
Il fracasse la barre.
Coup de pied Zappa Costa et on voit Antonio Conte qui prend la tête.
Il a plus de faux cheveux.
Encore 30 secondes à jouer, messieurs. Deux partout à l'Emirates entre Arsenal et Chelsea.
Arsenal, ils prenaient le troisième. Là, c'est cramé. Ils se relevaient plus. Là, hein. Ils étaient morts.
Dans le temps additionnel.
Attention, Marcos Alonso, peut-être la dernière action de cette partie avec Willian qui a pas trop de solutions. Il va essayer de renverser. Mais voilà, peut-être que Monsieur Taylor va laisser aller jouer cette action avec Alexis Sanchez qui a beaucoup couru dans cette partie. Il est tout seul sur le côté gauche avec peut-être le centre deuxième poteau. Intervention impeccable de la tête de Gary Cahill.
Allez, c'est fini.
Voilà, c'est terminé. Sur ce score, 2 buts partout entre Arsenal et Chelsea. Wilshere a ouvert le score pour Arsenal. Ensuite, pénalty de Hazard, but de Marcos Alonso, la 84e. Chelsea qui menait 2-1 et l'égalisation dans le temps additionnel d'Hector Bellerin. Logique au vu de la physionomie de cette partie. 2 buts partout. Chelsea reste 3e, revient à 1 point de Manchester United. Arsenal 6e et désormais à 5 points de la 4e place. C'est Liverpool qui est 4e.
Merci beaucoup Arnaud Valadon. 2 partout donc entre Arsenal et Chelsea. C'était la dernière affiche de la 22e journée de Premier League. Et cette fois, on peut y aller, Daniel.
Ouais.
Allez, la tranchée de Daniel qui concerne donc Mariano du côté de.
Alors comme Jean-Michel Aulas, effectivement, je pense que la convocation de Mariano est grotesque. comme je disais, je sais pas si en revanche le fond de ma pensée est le même que Jean-Michel Aulas. Lui, je pense que c'est évidemment, comme d'habitude, pour défendre son club, son joueur qu'il dit ça. Moi, plus globalement, c'est parce que je ne veux pas du foot qu'on est en train de nous préparer. Évidemment, je vais pas rouvrir le débat de la vidéo, mais quelque part, ça tourne autour de ça. C'est cette espèce de volonté qui est très à la mode, qui est dans l'air du temps, de cette transparence, que moi j'appelle cette fausse transparence. La simulation, c'est pas beau, et on convoque Mariano. Parce qu'on dit qu'il a simulé, dans le match juste avant les vacances, et ce pénalty qu'il a obtenu.
Contre Toulouse.
Il va y avoir débat, est-ce qu'il a été un petit peu touché? Et on sait que quand tu cours aussi vite que ça et que t'es un petit peu touché, bah tu peux t'écrouler. Il est évident qu'il en rajoute beaucoup. En rajouter, c'est donc devenu un acte répréhensible et coupable, passable peut-être d'une sanction. Je sais pas ce qui sera décidé au terme de cette fameuse convocation. Dans le passé, je crois qu'une seule fois,
non, c'est arrivé plusieurs fois déjà.
Simulation.
Alors, moi, j'ai regardé un peu dans les archives. Cavani a été convoqué une fois par la commission de discipline. Je vais être honnête avec toi, c'était en 2014. J'ai pas réussi à trouver s'il y avait eu sanction ou pas de la part de la
sanction,
commission.
Sanction, sanction. Il me semble qu'il y a le seul cas Fabrice Urrez.
Alors, ça a été le premier. Le cas Fabrice Urrez.
En sanction, je crois.
En décembre 2002 contre Bordeaux. Ouais. Il y a eu ensuite Hilton avec Lens également contre l'OM, et il y a eu Johan Mikou également en 2008 face à Nancy, c'était avec Bordeaux également. Alors tout ça pour dire quoi, que c'est quand même très rare que la commission de discipline.
C'est pas arrivé à Valbuena une fois.
En tout cas, je l'ai pas trouvé moi. Il y a des pays où ça se fait. Tu sais que les Anglais ont complètement démocratisé la chose à partir de cette saison en Angleterre. La commission de discipline a le droit de visionner les images et de sanctionner une simulation a posteriori. Les Brésiliens ont adopté ça pour la saison prochaine peut-être aussi.
Très bien, ils peuvent
vont peut-être
ils peuvent le faire dans 50 pays, que ça ne changera pas mon opinion.
Non, mais juste pour te dire.
Moi, je ne veux pas de ce foot-là. Je ne veux pas de ce foot-là qui est observé par le biais des caméras, qui donc ne respire plus le terrain, l'herbe, le vice, l'envie d'un joueur de se comporter comme une garce s'il en a envie, de se comporter comme un joueur fair-play s'il en a envie, comme un bon, comme un méchant, comme ce qu'il a envie d'être, et qui sera jugé par un arbitre sur le terrain, ce qui créera l'histoire du football et non pas
non, mais c'est induire en erreur l'arbitre, c'est pas faciliter son boulot aussi.
Peu importe.
Non, alors, je pose une question, c'est considéré comme c'est
peu importe.
C'est considéré comme un acte de tricherie, allez, si je pousse un peu de la simulation.
Eh bien, moi, j'ai envie de te dire que il y a un arbitre qui est sur le terrain, qui décidera si oui ou non c'est de la triche. Toi, qui es devant la télé, tu jugeras ce que t'as envie de juger. Et si tu juges que oui, bah, si t'es au stade la semaine d'après, tu feras de lui ton bouc émissaire en le sifflant. Il y a des mecs comme ça qui ont fait des carrières avec des réputations de tricheurs, qui ont traîné ça toute leur vie. D'autres qui ont fait des réputations, qui ont eu des réputations de type fantastique et qui ont eu de belles images. Je veux de la variété, je veux de la différence. Je ne veux pas de l'homme égalitaire. Moi, je veux qu'on soit différent, avec nos caractères, nos identités.
C'est pas des robots, les
joueurs. Ce que toi, tu appelles de la triche, en Amérique du Sud, on n'appelle pas ça de la triche. Et moi, je veux le respect des cultures. Je veux qu'un mec, je veux qu'une garce en Argentine, ça reste une garce argentine. Si c'est dans sa culture de mettre un coup de sâton, façon l'Uruguayen Diego Lugano, ou
une olive à Cavani, comme...
Voilà. Et je rappelle qu'en plus,
Rara.
Je rappelle tomber dans les stéréotypes, l'une des plus grosses simulations garces que j'ai vues, c'est Rivaldo contre la Turquie à la Coupe du Monde 2002, qui soi-disant prend le ballon dans la tronche alors qu'il l'a pris dans les tibias. C'était grotesque.
Mais
j'ai trouvé ça marrant. J'ai trouvé ça marrant qu'il soit
rappelle.
À ce point ridicule.
On s'en rappelle.
Moi, quand les rugbyman pendant des années se sont foutus de la gueule des footeux, comme des mecs qui se roulaient par terre, qui faisaient du cinoche. Tiens, c'est l'identité de ce sport, c'est comme ça. Il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des tricheurs, il y a des pas tricheurs. L'arbitre est induit en erreur. C'est comme quand on dit.
Tu sais que c'est l'argument principal. Hein, c'est ce que beaucoup de gens vont dire. C'est-à-dire.
J'en m'en fous.
Je te réponds simplement. Il faut faciliter le travail des arbitres. Surtout.
Je m'en fous.
Surtout si tu n'as pas la vidéo pendant les matchs.
Moi, je ne critique pas l'arbitre.
Il faut faire en sorte que les joueurs ne trichent
pas. Moi, je ne critique pas l'arbitre.
Les indices pas en erreur.
Et je veux que sur le terrain, les mecs fassent ce qu'ils ont envie de faire et laissent l'arbitre décider. Un arbitre qui, au bout de 5 minutes, a
sent qu'il a peut-être fait une erreur, fera ou non peut-être une demi-compensation, ou ça sera psychologiquement atteint, et ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'histoire
de la guerre psychologique.
Je vois pas pourquoi on veut nous changer l'histoire de ce sport. Je comprends qu'il y a 1000 personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi. J'accepte leur désaccord, mais qu'ils acceptent ma façon de voir le foot, la vision philosophique que j'ai de ce sport, qui fait que s'il est universel, si autant de grands intellectuels en Amérique du Sud, dans d'autres pays que la France, parce que de ce côté-là, on est un petit peu en retard, s'ils sont intéressés, c'est pour toute la richesse humaine qu'il y a à l'intérieur de ce sport, qui n'est pas un sport de robots, qu'on a envie de robotiser aujourd'hui avec la soi-disant vidéo qui a encore accordé 2 faux buts dans le championnat d'Italie dans la dernière journée, parce que des choses ridicules on va en voir, mais à l'appel, alors, de la même façon avec Daniel, ou sans.
Juste Daniel, moi il y a un truc, je t'avoue que j'ai un peu de mal avec cette vision hyper romantique du foot. Parce que pour moi, je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, le football, c'est déjà, et les footballeurs sont déjà des robots. Je te parle au top niveau mondial, appelle le niveau industriel, puisqu'on est dans la métaphore.
Mais exactement, et c'est pour ça que je veux pas en plus qu'on mette par-dessus déjà l'époque actuelle et ce que sont effectivement devenus les joueurs dans cette machine industrielle. Je sais que c'est dans l'air du temps et qu'on va y venir.
Mais il y a toujours des évolutions dans les règles du football.
Oui, mais le problème,
c'est pas parce qu'à un moment t'as eu un progrès que le progrès doit sans arrêt continuer et ne jamais s'arrêter.
Nicolas, si un joueur triche, on en revient en fait au débat qu'on a eu juste avant les vacances. Il en revient à la capacité d'interprétation de l'arbitre, de juge, de décider si oui ou non. Il décide de se laisser duper par la triche.
Mais dans la vie, on voit pas tout. Tu bosses avec des gens qui sont des salopes, mon vieux.
Alors je vais dire un truc.
On sait tous.
Sauf que le moment.
Et tu sais pas la façon dont tu vas te faire trahir.
Sauf que alors, je vais prendre un autre exemple.
Là, c'est un terrain, c'est du jeu. Acceptons le jeu. Acceptons le foot, le jeu. Arrêtons, mais tu sais très bien que cette transparence, c'est du bidon. C'est comme la transparence en politique, c'est pour les gogos. Il y a que les abrutis qui sont bernés
pour la transparence. Ça n'a rien à voir avec la transparence.
C'est pas de la transparence.
Non, pour moi,
c'est
de la guerre psychologique.
On regarde avec une caméra et on va condamner Mariano.
C'est la partie de la guerre psychologique du football.
Parce que la morale du moment va dire que ce mec-là a exagéré dans sa chute. Mais qu'est-ce que je m'en fous qu'il ait exagéré?
Pour moi, c'est pas qu'une histoire de transparence, c'est une histoire de justice. C'est-à-dire, pour moi, c'est deux choses.
Mais il n'y a pas de justice.
C'est pas
ma vision.
Mais c'est pas ma vision. Je te donne des arguments des gens qui défendent par exemple la vidéo ou d'autres cas. Ils vont te dire, c'est pas une histoire de transparence, hein. C'est une histoire de, peut-être que l'arbitre n'a pas vu la chose à ce moment-là. Peut-être que s'ils sont sanctionnés a posteriori, ça calmera les joueurs. Parce que les mecs vont se dire, maintenant, on sait que si jamais on en fait trop, on simule,
ou
on peut jouer.
Mais en quoi c'est un problème qui simule? Mais qu'est-ce que ça peut faire?
Parce que ça induit l'arbitre en erreur.
Pourquoi tu parles de justice? Mais toi, t'as été induit en erreur par des femmes qu'on simule avec toi, que ça peut foutre?
Moi, je pense pas.
Qu'est-ce que ça peut foutre?
Pourquoi tu parles de justice?
Qu'est-ce que ça peut faire?
Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que la notion de justice vient faire là-dedans? Pourquoi on devrait avoir, enfin, à aucun moment, j'ai vu que le football, que l'arbitre devait rendre justice.
Moi, j'aimerais un jour.
Le rôle de l'arbitre, c'est d'être le juge. C'est d'être le juge du match.
C'est là que tu te trompes. Un arbitre, c'est pas un juge.
Sinon, ça sera un juge.
Mais non, mais c'est parce que tu sais pourquoi je m'énerve? Parce qu'en fait, toi et beaucoup, vous ne comprenez pas l'essence de ce sport. Un arbitre, philosophiquement, ce n'est pas un juge. Tu connais la différence ou pas?
On a fait ce débat-là, on a une demi-heure.
Je sais pas, moi, j'encourage les gens à aller sur Internet, c'est simple, Wikipédia va vous informer. Un arbitre n'est pas un juge.
Il prend des décisions, il est obligé de prendre des décisions à un moment donné.
Un arbitre.
D'accord, mais il est là.
Ça n'est pas un juge.
Non, mais d'accord, mais il y a une notion de. C'est lui qui, si tu veux, prend la décision à un moment où il y a un litige. Il a un rôle de juge quelque part. Dans l'esprit, j'entends. Dans l'esprit.
Un arbitre, c'est nommé par 2 parties qui décident en cas de litige. De se référer à une personne qui décidera. Cette personne-là,
selon sa sensibilité, son arbitraire,
elle décide.
C'est pour ça qu'on dit l'arbitraire.
Un arbitraire. Si elle se trompe, tant pis pour la gueule des deux qui ont décidé que c'était lui.
Tu sais quelle est la différence, Nicolas, parce que
les règles du foot ont décidé qu'il y avait un.
Tu sais quelle est la différence entre l'arbitraire et l'objectivité?
Vas-y, Jonathan.
Il y a une différence entre l'arbitraire et l'objectivité. Et ce qui fait la force de l'arbitre et sa légitimité, c'est que les deux parties ont décidé, dans commun accord, de se référer à cet arbitre-là pour prendre une décision Alors, qu'ils accepteront par essence.
Je vous pose la question différemment. Comment vous expliquez que les arbitres eux-mêmes soient plutôt favorables à ce genre de décision?
Ah, mais parce que les arbitres
parce qu'ils sont notés,
sont pas...
ils ont une pression de malade, les pauvres sur le dos.
Ils ont une pression de malade,
c'est, ils ont des montées, des descentes, insultés. Voilà.
Et en plus, ouais, je pense en majorité, effectivement, ils sont pour, mais ils sont pas. Tu sais, il y a énormément de dirigeants de clubs de foot qui connaissent rien au football, qui ont dirigé des clubs, et il y a beaucoup d'arbitres qui n'ont pas de sensibilité historique par rapport au football et qui n'ont pas cette culture-là. Après, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'exprime une voix qui est minoritaire.
Ah, il y en a beaucoup. Mais
on l'a déjà fait.
J'ai pas de problème avec ça. Au moins, j'explique pourquoi je veux que ça reste comme ça. J'explique cette sensibilité. J'explique pourquoi philosophiquement je veux qu'il y ait toutes ces différences dans le football. De différences humaines, différences culturelles, différences d'identité dans la façon de voir le foot. Aujourd'hui, on va tout lisser. Aujourd'hui, tu regardes une compétition en Afrique, en Asie, en Europe, on va à peu près, maintenant tout le monde joue de la même façon. Bon, en Amérique du Sud, il y a encore des particularités, tant mieux. Moi je veux pas que ce soit comme ça. Je veux pas, moi, surtout quand t'as un grand mélange.
Ouais, c'est la même chose. Il y a un aspect social aussi, et donc
on n'a pas le droit de critiquer ça.
Il y a une chose qui est importante, parce que ce débat, on a déjà eu ce sémantique entre la différence entre le juge et l'arbitre. Alors, on a eu plein de réponses sur Twitter en disant non, enfin, des débats. Je me suis renseigné, j'ai fait mes devoirs. Ça serait trop long à expliquer, mais quand tu parles de justice, c'est pour ça que je dis que sur ce terme-là, quand tu parles de justice, il y a quelque chose qui tient en fait de la vérité, de la notion de vérité.
Exactement.
Quelle est la vérité dans le football, dans les règles du football? C'est pas blanc ou noir ou 10 plus 10 font 20.
Mais c'est même dans
c'est
la vie,
question
hein,
d'interprétation.
Même dans la vie, la vérité.
Un jugement, ça doit se référer à une sorte de justice absolue. Donc j'ai bien dit absolue et non arbitraire. Là, en l'occurrence, je suis un arbitre sur le terrain qui décide selon sa sensibilité d'interpréter. Attends, je reviens à la triche. Et donc de décider si lui il se laisse berner ou pas par la triche, d'interpréter la triche
de vérité
manière.
N'existe pas dans le football.
Et tu as, ça existe. Et tu as
non, il y a des règles et un arbitre qui interprète.
Laisse-moi finir.
Donc il y a pas de vérité.
Et sur les côtés, tu as des gens qui s'appellent des juges de touche qui eux coup de prendre justice.
C'est là où moi
et là,
je suis
c'est
pas...
une vérité. Alors, attends, selon une règle qui n'est pas arbitraire, mais
c'est
totalement
objectif. C'est là où moi, j'ai une interprétation différente de la vôtre. Je suis d'accord avec vous. Avec vos histoires de juge, de justice, etc. Mais la vidéo, elle est pas là en tant que juge ou en tant qu'arbitre. La vidéo, c'est un outil pour les arbitres pour prendre des décisions qui seront de toute
et
façon arbitraires.
Tu sais quoi, en
fait, la décision, elle revient de toute façon à lui. Le fait qu'il puisse avoir un outil supplémentaire pour prendre une décision, je vois pas en quoi ça change justement le débat philosophique.
Non, mais attends, juste si, parce que là, ce qu'on vient de dire, en fait, ça ouvre les portes à, on a peut-être pas le temps, mais à continuer le débat. C'est que si sur les côtés, ça s'appelle des juges de touche qui rendent des décisions qui là, hors jeu ou pas hors jeu, ça tient la vérité. Peut-être qu'il faudrait justement avoir la vidéo sur les hors jeux.
Moi je vous dis pas que la vidéo.
Mais sur une simulation, c'est grotesque.
Le robot ne prend pas la décision. On l'a vu d'ailleurs avec le cas d'ailleurs de le Texier, le fameux but, le fameux Amiens 3, où la goal line technologie n'a pas fonctionné. De toute façon, quoi qu'il en soit, la décision elle revient à l'humain, elle revient à l'arbitre. Quoi qu'il arrive, c'est juste un outil. C'est pas la vidéo ne remplace en rien l'humain et l'arbitre qui prendra de toute façon la décision. Alors qui est juge, qui est arbitre, qu'est-ce que vous voulez.
Ça, c'est un bon argument.
Non, mais enfin, moi, j'interprète
c'est
comme ça.
Vois, mais le problème, c'est que t'es naïf et idéaliste, Nicolas.
Non, je suis pas idéaliste. Si. C'est simplement que moi, les arbitres vendent les choses comme ça, eux qui défendent justement
ceci. T'es naïf et idéaliste parce que tu sais très bien que ça sera pas juste un outil pour s'aider à prendre la décision, mais ça deviendra une béquille qui s'imposera par essence et qui envahira les décisions prises par les arbitres.
En quoi?
Bah, tu sais bien, ça sera la solution de facilité. On sait très bien que ça finira par se passer comme ça.
Moi, je pense surtout que si... Non, mais après, de toute façon, il y aura quoi qu'il en soit des interprétations.
C'est la boîte de Pandore. Une fois que tu l'ouvres, c'est terminé. Hein.
Messieurs, on va faire une petite pause. On revient dans quelques instants avec ton avis tranché, Jonathan McCardier. On vous attend, bien entendu, au 32-16. A tout de suite pour la suite de l'After.
RMC, le super football show. L'After Foot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo et avec Jonathan McCardier, on a eu l'avis tranché de Daniel Riolo. Place au tien, Jonathan.
Au tien, mais c'est pas le tien.
Non, c'est le tien.
Jonathan, très bon dans le...
Meilleur en MMA qu'en foot.
Ah bah oui, souvent je comprends rien quand il parle de football. Mais là, j'ai tout compris.
Ouais, je devrais lui montrer en fait.
Bisous à toi, Jérôme Breton.
Mais un jour, je lui montrerai pourquoi.
Alors, ton avis tranché concerne notre ami Christophe Galtier.
Écoute, oui, alors c'est vrai que quand on a eu, on était ensemble quand on a eu l'annonce du fait que Christophe Galtier était le nouvel entraîneur du LOSC, moi j'étais un peu surpris, un peu sceptique au départ. C'était ma première impression à froid. Puis après, bah, notamment bah, en écoutant cet après-midi le Moscato Show, là, j'ai entendu Eric en parler. J'ai repensé à ce qui s'était passé avec Galtier au LOSC, à Saint-Etienne, quelle était la situation du LOSC. Et j'ai peut-être un petit peu changé d'avis. Pourquoi? Alors, c'est vrai que la première impression, quand tu vois, t'es le LOSC, t'as un projet de trading de joueurs avec beaucoup de jeunes joueurs, tu prends Marcelo Bielsa comme coach, s'asseoir et tu termines avec Christophe Galtier, l'entraîneur étiqueté Ligue 1, ça fait peut-être un peu curieux. Quand tu le prends à l'envers aussi pour Christophe Galtier, qui est un entraîneur qui a fait 8 ans dans le même club en Ligue 1, qui est parti parce qu'il plusieurs fois il a clamé son envie d'ailleurs, notamment d'Angleterre, de Première Ligue, finir par jouer les pompiers de service dans un club où la situation est floue avec la DNCG, Lopez et tout le bordel autour, ça semble être aussi un petit peu déceptif pour lui. Mais au final, moi quand on regarde la situation, je me dis que c'est peut-être un mariage de raison. Qui d'autre y avait en fait pour prendre le LOSC? On avait parlé de Gajardo. Gajardo, il bougera pas de River et surtout pas pour aller dans les bombiers du LOSC.
D'ailleurs.
Voilà. Donc ça semblait compliqué. Tu voulais prendre qui? Girard, Antonetti, c'était déjà fait. Non. Écoute, je pense que la situation elle est gagnante-gagnante. Win-win, comme on dit en politique maintenant. Galtier, en fait, qu'est-ce qu'il apporte au LOSC? Je pense qu'il va leur apporter une chance de maintien qui est quand même très 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 grande. Hein. Ça, moi, j'ai pas de doute que Galtier maintienne le LOSC. Et lui, il a rien à perdre. S'il arrive à faire son coup, il va passer pour le sauveur. Si ça foire, eh ben, on dira, si c'est foiré, voilà, que c'est la faute de Bielsa, la faute de Lopez, la faute de la DNCG, la faute aux investisseurs, la faute aux banques, tout ce que tu veux. Mais je pense que même si ça foire, son image, restera intacte. Et même mieux, en fait, pour Galtier. Et c'est là où je veux en venir. Je pense que le LOSC, en fait, ça pourrait être le tremplin pour Galtier, que l'AS Saint-Etienne n'a jamais été pour lui. Pourquoi? Parce que je pense qu'intrinsèquement, les Verts, ça peut pas être un tremplin dans les conditions dans lesquelles le club était lorsque Galtier était là-bas. Alors, quel est son bilan en fait à Saint-Etienne? On le connaît tous, hein, on va pas le refaire, mais c'est l'Europe 4 années, une équipe qui était redevenue compétitive, une Coupe de la Ligue, donc un premier trophée gagné après des années d'abstinence. Et au final, la Saint-Etienne est redevenue, grâce à Christophe Galtier, une place forte de la Ligue 1. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qu'on garde un petit peu comme critique? Bah, c'est les critiques sur le jeu. Mais si tu regardes bien en fait, il y a la saison 2012-2013, celle où ils gagnent la Coupe de la Ligue. Ils marquent 65 buts. Ils ont un jeu qui est quand même très vertical avec Erdink et Aubameyang. Il y a une équipe qui tourne bien. C'était pas du tout l'équipe chiante qu'on veut croire. Ils gagnent la Coupe de la Ligue. Là, ils se foirent sur les phases de poules en Europa League. La saison d'après, ils font une super saison. Ils font le record de points du club. Ça joue bien. C'est une équipe qui joue bien avec Brandaholm, avec Erdink, avec Tabanou. Pas des joueurs qui sont hyper sexy, mais c'est une équipe qui continue de marquer, qui est parmi les meilleures attaques de Ligue 1. Et puis patatras, finalement, les Saint-Etienne finit par se qualifier pour l'Europe. Le mercato suit pas. Le club structurellement ne suit pas. Et là, effectivement, ça devient moche à voir. On sait des purges. Ça reste efficace, mais c'est pas du jeu qui était flambant. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que j'ai dit que la Saint-Etienne n'a jamais pu être structurellement le tremplin pour Galtier, c'est parce que le club n'a jamais su évoluer en même temps que ce que Galtier l'a fait évoluer. Alors, ce passage au LOSC, à mon sens, je pense que ça peut être le passage du feu pour lui. S'il réussit et qu'il arrive à maintenir le club, on le verra sous un jour nouveau, sous un jour positif, on dira que c'est le sauveur qui a réussi la mission impossible. Et je pense que, tu vois, il pourrait peut-être, s'il réussit au LOSC, suivre la trajectoire d'un autre entraîneur mythique, entre guillemets, du LOSC, qui est Claude Puel, et pourquoi pas s'ouvrir les portes tant rêvées de l'Angleterre.
Et bien on va voir ce qu'en pense Vincent, supporter du LOSC qui nous a appelé au 32-16. Tiens, sachez que le Sporting vient de marquer là face au Benfica, on joue depuis 20 bonnes minutes de jeu au Portugal. Salut Vincent!
Bonsoir Nicolas, salut Daniel, salut Coco.
Bonne année Vincent.
Ouais, bonne année à vous.
Alors t'en penses quoi de la vie tranchée de Jonathan Macardy? Alors c'est gagnant-gagnant, c'est win-win pour Christophe Galtier et le LOSC.
Ben, j'avoue qu'il m'a bluffé parce que j'étais certain qu'il allait être un peu nostalgique et en vouloir un peu au LOSC d'avoir viré son idole et avec toutes les grandes théories sur son idéalisme footballistique et sur le dogme de Bielsa, j'étais certain qu'il allait fracasser Lille. Au final, ben, je suis assez d'accord avec toi, Jonathan, c'est-à-dire que ben, on a beaucoup d'attentes, nous, Lillois, auprès de Galtier. On attend aussi qu'il redonne de l'efficacité et de la confiance à un effectif jeune mais de qualité, d'apporter à l'équipe du pragmatisme footballistique et notamment en mettant les joueurs à leur poste, en retrouver aussi ce qui est vraiment important, les valeurs du club, notamment la combativité, le courage, l'opiniâtreté, que les joueurs aient vraiment la volonté d'avoir un résultat, pas uniquement pour eux, pour leur carrière, mais aussi tout simplement pour le club. et aussi des conférences de presse qui ressemblent à quelque chose, qui est pas des conférences de presse où il y a un entraîneur qui regarde pas les,
ouais, mais
les
bon, personnes ça, dans les yeux
et qui parle, ouais, et qui dire, parle Vincent, de, ça... d'une analyse de, d'une photo ou de que des courses à haute intensité, ça permet de gagner des matchs, quoi.
Non mais Vincent, en fait là, enfin, je pense que t'es là où t'es un petit peu à côté de la plaque, mon ami. C'est que qu'on soit bien clair, Galtier, ça reste un pansement sur une plaie béante, hein.
Bah après, moi, je voyais pas qui mettre d'autre. Galtier, pour nous, ça représente vraiment une bonne solution parce que il a toujours eu des résultats avec des équipes très moyennes. Il n'a pas eu la chance d'avoir des recrutements à 70 millions ou 80 millions d'euros pour pouvoir faire son équipe. Et avec des équipes très moyennes, il est toujours
arrivé avec à avoir des bons
résultats. Tu l'as exposé, toi, dans ta présentation, Jonathan.
Ok, Vincent. Merci de nous avoir appelé, Vincent, en tout cas.
Ben, je vous en prie, merci de m'avoir reçu.
Eh ben, à très vite, Vincent, et belle année. Salut. À toi. À très vite.
J'aurais bien aimé répondre à Vincent, moi, savoir.
On a quelques secondes.
Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est pas grave, alors.
Non, mais vas-y, on a 30 secondes.
Bah, 30 secondes, c'est compliqué. J'aurais bien aimé savoir s'il était d'accord pour signer pour les 4 dernières années de Galtier à Saint-Etienne et qu'est-ce qu'il aurait fait de ces fameux résultats dont il parle. Il les aurait, je sais pas, il en aurait fait quoi? Il en aurait fait des posters dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il aurait fait de ça? Je sais pas, de combien de matchs il se serait souvenu? De combien de belles soirées il se serait souvenu? De ces fameuses qualifications, de ces fameuses qualifications européennes de Saint-Étienne où
Vincent.
Ils y sont allés pour se faire tanner le cul par des équipes inconnues.
Est-ce que c'est de sa faute? Hein,
non mais franchement,
tu m'avais dit la même chose, Daniel, quand j'avais parlé des résultats de Lille avec Gérard ou ouais. Anthony, qu'on était, bah ouais. On était allé voir l'Europe.
Mais, bah génial. Et qu'est-ce que t'en as gardé comme souvenir? T'as vécu une belle soirée?
Et qu'est-ce que je requête qu'on retienne du passage de Bielsa, du beau jeu, du
c'est sûr que t'as pas eu le temps sur 4 mois, 6 mois, tu vas rien retenir du tout, c'est parti en couille tout de suite. Mais là, le but n'est même pas de comparer. Le but, il est de parler d'un club qui t'a vendu un projet qui en fait auquel on a cru et moi aussi, mais qui était en fait sur des sables mouvants. Et aujourd'hui, moi je veux bien, j'ai pas de problème. Galtier, on sait très bien ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'on considère être bien dans le championnat
mais
de France.
Moi, je sais pas ce qu'il va
faire. Il s'est défendu d'être un entraîneur défensif aujourd'hui. Eh bien, ok, je dis banco, vu les joueurs qu'il y a à Lille, tu vas être capable de proposer du football. Eh bien, on va le voir. Moi, je mets au défi proposer quelque chose. Parce que Jonathan, quand tu as parlé des belles saisons de Saint-Etienne, franchement, Saint-Etienne, il y a pas eu. Il y a eu, ok, la constante d'être cinquième.
2013-2014.
Non,
c'est là où on trompe, parce que la mémoire est courte. Non, mais la mémoire est courte. 2012-2013-2014, c'est vraiment une équipe qui joue pas mal.
Non.
Le problème, c'est qu'à partir du moment où ils se qualifient pour l'Europe, ça joue plus.
Jonathan,
ça joue plus. Ils ont plus d'effectifs.
Dans le contexte Ligue 1 où tu te faisais chier à 90% de tout le championnat, Saint-Etienne,
quand il y avait Gradel, quand il y avait Brando, tu peux m'avenir que ça jouait mal. Je te dis pas que c'était le Barça, mais c'était pas non plus somnifère que c'est devenu après.
Ils ont fait retrouver l'Europe pour aller se faire tanner le cul par des équipes en bois.
Mais est-ce que c'est de sa faute?
Enfin, même là, il y a une évolution au niveau des résultats au niveau européen. Les dernières saisons, elles ont été bonnes.
Ouais, il s'est passé quoi? Tu peux me citer?
Non, mais elles ont été bonnes.
Cite-moi ce qui s'est passé en Europe avec Saint-Etienne.
Par contre, là, il a raison, Daniel.
Cite-moi les évolutions. Ils sont sortis d'une poule une fois, c'est ça?
Tu veux que je te dise? On te le dit juste après ça.
Ah ouais. Tu vas faire une petite recherche, ça me fait rire.
RMC, le super football show, l'After Foot.